22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM en ce vendredi 30 avril. Et oui, début de week-end pour tous, on l'espère en tout cas. Auditrices et auditeurs de Beurre FM, on le rappelle, comme à son habitude, vous pouvez réagir avec toute l'équipe de Time Sport en composant le numéro du standard, le 01 53 48 3000, et aussi sur la Twittosphère avec vos consultants. Au menu de cette émission ce vendredi soir, Manchester United surpuissant et Arsenal en manque de ses attaquants. On accueillera exceptionnellement dans cette émission Jekyll, artiste et aussi éducateur des U16 de Torcy, la crise avec le nouveau format des qualifications de la Formule 1, avant de terminer avec l'illustre Paris Saint-Germain qui rencontrera les 100 et or de Lens. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura le président Kamel. Comment ça va, Kamel?
Ça va très bien, merci. C'est un plaisir d'être parmi vous encore.
Ah ben nous aussi, Kamel.
Et puis je passe le bonjour à nos auditeurs et nos auditrices.
Ah ben voilà, comme toujours, c'est ça. Toto Bellozzo est là aussi.
Salut Bilal, comment tu vas?
Ça va très très bien, Toto Bellozzo.
Content d'être avec vous aussi ce soir.
Ah ben nous aussi. Ah ben on va voir, parce qu'on va retarder aussi l'ambiance. On rappelle que tu y seras, toi, Kamel, ou encore Vivien et Mauricio, voilà, dans l'émission avec Vanessa ce soir. Même Mourad, on aura, allez, voilà.
Ouais. Dans, ouais, le grand bain. On... Ouais. Dans le grand bain du direct avec les auditeurs.
C'est ça, 23h, 1h du matin. Samir est avec nous aussi. Samir, comment ça va? Ça fait plaisir de te savoir avec nous ce soir.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, pressés de parler de l'Europa League. Et j'espère qu'on ne va pas voir que des représentants anglais en finale.
Ah ben ça, on va voir. On va voir en tout cas, parce que l'Europa League hier, ça a été assez fort. Mourad est là aussi. Comment ça va, Mourad?
Ça va très bien, Bilal. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'en découdre ce soir, justement, sur l'Europa League avec nos amis autour de la table.
Oh bah ok, Jekyll est là. On va le faire participer.
Je suis là,
Comment ça va, Jekyll?
Ouais, écoute, ça va, grâce à Dieu, on est là, hein, tous présents. Ah bah, et big up à vous tous et merci pour l'invitation.
Ah bah aussi, ah bah nous, on est là avec Yanis, toujours là. Tu fais péter le standard, on l'espère. Oui, avec les auditrices et les auditeurs. Un petit clin d'œil aussi à Diane, sans oublier Jouba ou Chen. On va s'attarder sur les Mancuniens, les Diables Rouges.
Time Sport, le sujet des sociaux.
Eh oui, on parle pas du Paris Saint-Germain, il est déjà comme ça, il est mécontent. Enfin, la Ligue Europa oblige, dans un match assez fou, Manchester United prend un net avantage face à l'AS Roma, mais aussi, on n'oublie pas, Villarreal face aux Gunners d'Arsenal. On vous écoute, messieurs.
Moi, si je peux rebondir en premier.
Oui, vas-y.
Vas-y,
c'est rare, vas-y.
Je peux bondir parce qu'il n'y a personne qui a bondi d'abord en premier. Donc, je peux rebondir.
Alors.
Donc, c'est un match, en fait, pour moi, le match d'hier, c'était un match à nous faire aimer l'Europa League. L'Europa League est beaucoup critiquée. Donc, tu as eu un match assez similaire au scénario Paris Saint-Germain-Manchester City, avec un match à deux visages, comme l'a dit Riyad Mahrez hier, avec une grosse première mi-temps de la part des Romains, et ensuite un retournement de situation de la part de Manchester qui vient mettre 6 buts ou 5 buts en deuxième mi-temps. Après, il y a eu beaucoup de faits de jeu aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi ce match. Il y a eu les 3 blessures.
Déjà,
les 3 blessures côté romain.
Il
y a eu les pénalties un peu douteux.
Les Italiens, en général, au niveau médical, ils sont bons. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Ouais, exactement. Mais en fait, ça dure depuis très longtemps, le Romain. J'ai l'impression, le nombre de blessures. Je crois que sur les 5 dernières années, c'est plus de 70 blessures en tout. Donc au niveau du staff médical, je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Après, moi, je voudrais souligner simplement, pour faire un parallèle avec le match du PSG, la prestation de Cavani. Je pense que si on avait eu un Neymar et un Mbappé qui défendaient autant que Cavani, certes, on pourrait s'asseoir sur certaines prouesses techniques, mais je pense que le résultat serait tout autre face à Manchester City au Parc des Princes. Deux buts de passe dé, beaucoup de déchets, mais une grosse débauche d'énergie qui permettait à Manchester United, de récupérer le ballon assez haut. Et c'est ce qui a permis des Pogba, des Bruno Fernandes de s'exprimer.
Alors, Jekyll, notre invité.
Depuis quand?
Non, là, Bruno Fernandes.
Je crois qu'il a mis un doublé aussi. Doublé de passes décisives.
Tu vois un peu le truc.
Un pénalty. Dans le doublé, il y a un pénalty. Il y a
un pénalty douteux, un pénalty litigieux aussi.
Allez, Toto Bellozzo, Samir et Kamel. Réaction.
Que Manchester, au final, remporte le match, c'est pas une surprise. On l'avait dit dans les émissions précédentes. Par contre, moi, j'étais vraiment déçu par l'attitude en fait des Romains. Ils sont à l'image de ce qu'ils font en championnat. Là, tu tombes contre Manchester, t'as la chance de mettre deux buts, de mener au score. Il y a eu l'effet de jeu que vous avez cité, mais la manière dont le match il s'est retourné, comme tu dis, pour des Italiens, je trouve ils ont manqué de vice, ils ont manqué de caractère. Personnellement, j'étais déçu par les Romains. Pour moi, il n'y a pas de surprise que Manchester.
Peut-être qu'il a tenu le même discours que Guardiola à la mi-temps. jouer comme vous avez l'habitude de jouer. Non, je plaisante. C'est une blague.
Ouais. Ouais, Toto. Alors,
voilà, pour le coup, c'est réussi alors.
Arrête, Mourad, quand même.
Concernant la Roma, pour répondre à Samir, c'est vrai que cette Roma, elle est, bon, ils sont 7e du classement en Serie A. Et c'est vraiment une Roma à deux visages. Là, ils étaient sur une grosse défaite contre Cagliari, qui est 17e du championnat. Ils ont fait une défaite il n'y a pas si longtemps que ça contre Parme, qui est relayable. Et ils sont toujours en lice en Europa League, en ayant sorti l'Ajax d'Amsterdam. Donc on est sur une équipe de... Enfin, je ne vais pas comparer avec le Paris Saint-Germain, mais sur...
Ah, attention, les comparaisons, la dernière fois avec Payet, attention. Parce qu'il y en a qui vont mal comprendre, oui, c'est pour ça. Vas-y,
je parle
Toto.
Pas de niveau, je parle de... Ouais. Voilà, d'un état d'esprit. Et l'état d'esprit dans lequel est la Roma, c'est un petit peu l'état d'esprit du Paris Saint-Germain, qui est capable de montrer deux visages complètement opposés, et c'est un petit peu la problématique.
Je ne sais pas si tu as vu Arsenal, mais on est encore dans
Arsenal.
Un autre niveau.
Aux oubliettes, Arsenal. Aux oubliettes, Arsenal, pour Mourad. Oui. Alors, on va parler d'Arsenal. Kamel.
Non, mais je pense que le match, il devait être facile, parce que les Italiens l'ont facilité, parce que Pogba, il a marqué un but. Donc ça devait être hyper. Si Pogba il marque un but, c'est que vraiment le match devait
être... Il avait marqué en finale du monde.
Il faut mettre du respect sur son nom, Kamel. Faut mettre du respect sur son nom, Pogba.
Pourquoi?
C'est quand même quelqu'un. C'est un joueur que j'apprécie. Hier, il a évolué au poste un peu à la Matuidi.
C'est un vrai joueur.
Qualité de jeu long, première touche, comme diraient les Anglais. Qualité de contrôle. C'est incroyable quand même, Pogba.
Je pense qu'après, excuse-moi de te couper.
Vas-y,
c'est Mourad, il m'a déjà coupé.
Je te pose une question, Kamel.
C'est le droit de la coupure, lui. C'est pas le passé, c'est la coupure, lui.
Je censure ici. Les consultants qui disent des bêtises.
Alors, non, tu n'es pas le CSA. On a le CSA pour faire ça.
Je pense que Manchester United, ils ont vraiment un ton au-dessus. Entre les deux, quoi, au niveau de comparaison, Manchester et AS Roma, c'est Manchester qui est devant dans tous les cas. Mm-hmm. Tu vois, c'est eux que, en tout cas, c'est eux les favoris dans un match comme celui-là.
Là, pour le moment,
tu peux pas t'attendre. Enfin, je sais pas qui ici allait s'attendre à ce que la Roma, ils allaient vraiment battre ou bouger à Manchester, qui quand même, quand tu regardes un peu le championnat anglais, c'est l'une des équipes qui joue le mieux. C'est une équipe qui a le chancheur, pas qui a le plus d'individualité, franchement, des fois, il y a des matchs anglais, quand ils sont nuls, ils sont vraiment nuls. Manchester United, c'est l'une des meilleures équipes anglaises.
Je suis d'accord avec toi.
Alors,
avant le match, tu te dis Manchester va gagner, tu regardes le résultat du match, si t'as pas regardé le match, tu te dis logique, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est de mettre des buts à l'extérieur et de pas savoir tenir le score. C'est-à-dire que pour la Roma, c'était limite inespéré de marquer deux buts à Old Trafford. Ils étaient bien à deux. Hein.
Mais on l'a dit, hécatombe de blessures, peut-être un arbitrage avantageux pour Manchester United, une profondeur de banc très limitée. Je pense que le résultat est logique.
Le côté blessure, c'est ce que je voulais te répondre tout à l'heure. Je pense que c'est un peu la constante dans toutes les équipes européennes au vu de la saison qui s'est passée.
Elle est d'accord, Kamel, avec toi.
Toutes les infirmeries sont
oui, Toto Belozzo.
Maintenant, en ce qui concerne la Roma et Manchester, c'est vrai que Manchester a un petit peu ce visage, tu sais, comme le Bayern a été là il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui, au cours du match, monte en puissance. Et cette montée en puissance fait que t'as cette impression au début.
À la réaction.
Voilà, au début, c'est toujours là. Enfin, si la Roma devait marquer, c'était forcément en première mi-temps. En deuxième mi-temps, contre ces équipes-là, c'est toujours très difficile parce qu'ils ont un rythme qui va accélérer de plus en plus et qui va monter. Et là, on l'a vu, qui aurait pu prédire un 6-2 à la fin du match alors que la Roma menait en première mi-temps. C'est vrai que c'est assez difficile.
Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai que c'est plus Catenaccio, hein, les Italiens, que je veux dire. Avant, il menait 2-0, c'était fini. Il fait fermer la boutique et soit en prenait un troisième et tu marquais pas un but. Peut-être sur un truc des yeux. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Et bon, après, moi je pensais que Manchester United allait gagner, mais pas 6-2 quand même. Tu t'es mené 2-0.
Oui,
après, je sais pas si le coach de la Roma a fait le même discours que Pochettino. Je sais pas, il leur a dit peut-être, les gars, vous avez gagné, vous êtes top.
Non, il a eu le même discours que Guardiola.
Donc je sais pas, mais moi je pense que tous ces...
Jouer comme vous avez l'habitude de jouer, il leur a dit.
Ouais, mais c'est compliqué.
Il leur a dit de jouer comme en
2000. Sauf qu'ils ont de mauvaises habitudes.
Non, et puis je pense que voilà, après c'est... Moi je pense que la décision, elle s'est faite, que ça soit au PSG et Manchester, ça s'est fait à la mi-temps. Et c'est les coachs qui sont à mettre en avant.
Peut-être que Pochettino a lancé une nouvelle mode.
Ouais. Hein,
celle de mener à la mi-temps et de s'écrouler en deuxième mi-temps aussi. Peut-être que c'est la tendance. Moi, j'avais jamais connu ça. Je connaissais, après le match aller, mais jamais à la mi-temps.
Alors, Zekil.
Tu sais, c'est quoi? C'est tout simplement.
Ça fait sourire Kamel, en tout cas.
C'est tout simplement le côté, justement, psychologique du football. Ça se dit ou pas?
À ce niveau-là, on doit l'avoir, Dikir.
Le coach, alors, il était super important. Il avait une mentale, il avait un truc. On savait, voilà, sa directive. C'était ça qu'on savait, tous les coachs. Comment ils savaient tenir un vestiaire, comment tout ça. Tu vois? Après, il y a eu des coachs, le football, avec l'évolution du foot, où les coachs sont rentrés dans la tête.
C'est clair que Fonseca, c'est pas Antonio Conte, hein. On est d'accord là-dessus. Ouais.
Là, je pense que là, c'est vrai, c'est ce que tu peux un peu retenir, c'est que l'équipe mène 2-1 à la mi-temps. Et après, et en fait, quand tu regardes la deuxième mi-temps, ils prennent 5-0.
Non mais.
C'est surgelant, pas.
Ah, mais faut voir aussi les deux buts.
Attends. Alors vas-y.
Faut voir les deux buts romains.
Ils mènent 1-0. C'est ça, ils mènent 1-0. Ils mènent 1-0. OK. Maintenant, deuxième mi-temps, ils perdent 2-0.
Non, mais on peut pas, je sais pas, moi on va pas, je parle du PSG, mais je veux dire, ils ont fait la remontada, ils ont perdu contre Manchester City.
On va revenir sur le Paris Saint-Germain.
Là, mais je veux dire qu'il leur faut pas un coach, il leur faut un psychiatre. Ouais, c'est un truc de dingue.
Oh, quand même. Non, mais un psychiatre.
C'est un psychologue, un marabout, je sais pas quoi.
Ah, bah, non, aussi, mais non. Comment tu dis qu'il a raison?
Tu te prends en Ligue des Champions une remontada. L'année d'après, tu perds Manchester City, Manchester United chez toi. Et là, tu peux pas refaire le truc. C'est impossible. Je veux dire, quel que soit. On a dit que c'était. On a dit que c'était la faute d'une Unai Emery. Après, ils ont viré Unai Emery. Je veux dire, à la limite, c'est les joueurs. Je sais pas, ils ont un problème.
Là où je voulais revenir tout à l'heure, c'est quand tu parlais. Moi, j'ai beaucoup aimé Edinson Cavani. Moi, c'est un joueur que j'adore.
Cavani, hein. On en aurait parlé aussi de Villarreal.
Il a confirmé une chose.
Et d'Arsenal.
Depuis que je le connais, ce joueur, d'ailleurs, qui était au Napoli, une petite dédicace à Mauricio.
Ouais, Mauricio, laisse-le à 23h, s'il te plaît. On parle pas de Mauricio.
Cavani a, en une touche de balle, il est dans le top 10.
Eh ben tiens, quand vous
parlez du loup. En deux touches de balle, il est dans le top 20 mondial.
Non, dans le top 50, je dirais.
En trois touches, il est dans le top 30 et ainsi de suite. Et c'est vrai que ce joueur-là, vraiment, quand il joue en première intention, dans ses appels de balle, dans son jeu, honnêtement, il est vraiment magnifique. Je pense que le Paris Saint-Germain a perdu beaucoup en le laissant partir.
Ils ont perdu une attitude.
Alors, Samir,
pour rejoindre ce qu'il dit, et même les critiques qu'il mangeait déjà Cavani quand il était au Paris Saint-Germain, pour tous les loupés, d'accord, il ratait beaucoup, c'est vrai, mais il marquait beaucoup. Hier, il rate un face-à-face très important quand Manchester perd 2-1. Il lâche pas l'affaire, il est hargneux. Voilà. Au final, derrière, il met doublé, il met passe décisive. Et ça, c'est vraiment l'exemple.
Et quel but.
Et ça, c'est l'exemple à montrer de tous les avant-centres du mec qui lâche pas l'affaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de supporters de Paris Saint-Germain qui le portaient dans son
cœur. Intéressant.
D'autres noms, en fait. C'est un débat, j'ai l'impression, éternel autour d'Edinson Cavani. Il a les défauts de ses qualités. Certains peuvent le juger si jamais il avait qu'une action à mettre et c'était celle-ci qu'il devait mettre au fond. Comme le Paris Saint-Germain, où il était à la croisée des chemins à un moment donné, où ils avaient une seule action pour pouvoir gagner éventuellement, et que Cavani vendangeait. Donc du coup, après, il était dos au mur. Mais là, quand t'as une pléthore d'occasions et que t'as l'opportunité d'en mettre 3, 4, 5 pendant un match, c'est clair que ses défauts seront masqués.
Ouais, non, mais je veux dire, par rapport à Cavani, on va parler d'Mbappé. Mbappé contre le Bayern de Munich,
on va revenir justement sur Mbappé.
Mais ce qui est bien, t'as raison, c'est que Cavani, il lâche pas l'affaire. Il est là jusqu'à 90 plus 3 plus 4. Il lâche pas l'affaire. Et je veux dire.
Il aurait pu être comme beaucoup d'attaquants, faire la tête parce que c'est pas un titulaire indiscutable. Non, il joue, il rate, il lâche pas l'affaire, il continue jusqu'à la dernière seconde. Ouais. C'est un vrai professionnel.
Auto-rapide.
Comme Mourad tout à l'heure.
Un mot sur Arsenal aussi.
C'est le premier défenseur de l'équipe. Ouais. Voilà, la débauche d'énergie qu'il a à défendre, à défaire le jeu, à être celui qui va des fois faire le repli intelligent. Honnêtement, c'est vraiment le genre de joueur que j'adore.
Et je veux dire, ils ont vachement perdu PSG parce que c'était un super joueur de tech. Ça veut dire sur les corners contre le PSG, c'est lui qui allait cailler dans la surface et qui récupérait la tête. Et c'est un super joueur de tête. Et ils ont, mis à part Marquinhos, mais ils ont, c'est pas Mbappé, c'est pas Neymar qui va faire des têtes comme Cavani. Hein.
Alors, je pense pas. 2-1 justement. Villarreal 7e du championnat espagnol, qui est la Liga. Et oui, face aux Gunners d'Arsenal, on manque d'attaquants. Certains bookmakers, d'observateurs du football, le disaient. Mourad, on t'écoute. Toi qui suis de près, Villarreal. Arsenal.
Oui. Ouais. Bah, tout ce qui se termine aussi en halle. Non, en fait, par rapport au système de jeu, j'ai l'impression que Arteta nous a fait un système à la Guardiola, mais on va dire un peu grippé. Il a essayé de la jouer à la Guardiola sans avant-centre.
Ah ouais.
Il est complètement passé à côté. autant que je demandais à Kamel tout à l'heure de mettre du respect sur le nom de Pogba, je pense qu'il faut mettre du respect aussi sur Villarreal, qui avait des grands joueurs
dans son projet
de départ, avec Parejo,
avec
Tringuedes, avec les Moreno, avec le Nigérian Chukwueze. Donc c'était, ils ont une très belle équipe. Après, Arsenal a été meilleur lorsqu'ils étaient à 10, parce que Ceballos est passé complètement à côté de son match. Ils ont eu la chance aussi d'avoir un penalty qui les maintient vivants. Aujourd'hui, qui peuvent le permettre de renverser la vapeur après l'Emirates, mais après Arsenal, c'est comme la roulette au casino. On ne sait pas ce qu'on va avoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais de jackpot.
Voilà, au moins c'est dit.
Mais moi, t'as raison, Mourad. Il veut imiter Guardiola. Il veut jouer sans avant-centre. Alors qu'ils ont trois avant-centres, qu'ils ont payé une fortune, Pépé 80 millions d'euros, Aubameyang et la
Cazette. En fait, il a fait jouer Pépé en avant-centre. Ouais, qui n'est pas avant-centre, ouais, mais Aubameyang et la Cazette, exactement.
Mais je veux dire, tu vois, c'est ça le truc. C'est-à-dire, il veut être le mini Guardiola, mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est incroyable. Parce qu'il a été l'adjoint, il pense qu'il va être, il va le dépasser.
Je vais être sincère avec toi, Mourad. Avant le match, je me suis dit, Villarreal, ils vont taper Arsenal.
Ah oui, ils sont forts, Villarreal.
Au début du match, ils m'ont pas fait mentir. Ils gagnaient 2-0. Ils pouvaient même gagner 3-0, mais il y a eu le loupé de Moreno. Le score final de 1-1. Il y a un autre duel. C'est Unai Emery contre Arteta.
Bien sûr.
Dans ce match. Et je me dis que, franchement, celui qui arrive va savoir ce qui va se passer au match retour. Il est très, très chaud. Au départ, je me suis dit que Villarreal, ils vont se qualifier facilement. Finalement, maintenant, je suis en train de me dire qu'au retour, Arsenal, maintenant, ils sont prévenus. Arteta sait comment Unai Emery travaille. Il sait très, très bien.
Les joueurs le savent aussi.
Donc, je me dis, finalement, avant le match aller, je me disais que Villarreal, ils avaient vraiment un wagon d'avance. Mmh. Sur le match retour, je me dis, je crois que la tendance s'est inversée. Je pense plus qu'Arsenal va le faire.
Moi, tu sais ce que je me...
Après, ouais, je suis d'accord.
Alors, Toto Belotti, on est d'accord, Ezekiel, notre invité.
Une chose, c'est que l'Europa League, c'est la coupe d'Unai Emery.
Il la connaît bien.
Il sait la manœuvrer. Ouais. Il a gagné trois fois.
Aussi.
Donc, c'est vraiment... Déjà, dans l'état d'esprit, déjà, il part avec une longueur d'avance. Et au vu de ce qu'a présenté... Enfin, faut dire la vérité, Arsenal a été complètement apathique
face à Villarreal. Je te pose une question, si t'es supporter de Villarreal, ton équipe a gagné 2-0, l'équipe adverse prend un carton rouge, t'es content du score final?
Moi, je vais dire honnêtement, je pense que les supporters...
Je pense que ça doit les laisser sur leur faim, en fait.
Je pense que les supporters de Villarreal se contenteront forcément de la victoire, c'est ce que je veux dire.
Quand tu sais que tu pouvais gagner 3-0, t'es forcément...
Alors, Jekyll, on l'écoute.
Moi, je pense que Villarreal, qui on va dire peut se dire favori parce que justement match aller à reçoit, tu vois, donc c'est là qu'il fallait les tuer et que je pense que
ils ont pris un rouge en fin de match aussi, Villarreal, si je me souviens bien.
Et donc ça veut dire qu'après au match retour, c'est Ballos déjà pour Arsenal quand même,
c'est pas une grosse perte entre nous.
Après maintenant, moi je pense qu'ils ont plus d'armes et je pense que... Et moi, je mettrais une pièce sur Arsenal chez eux.
Pour passer ce cap des demi-finales, il faudrait que l'entraîneur d'Arsenal soit Unai Emery, qui, comme l'a dit Toto, est un habitué de la C3 et qui a l'habitude de ces scénarios-là en demi-finale ou en quart de finale pour pouvoir aller au bout de cette compétition. Donc moi, je suis assez sceptique puisque Arteta, pour moi, il y a aucune logique dans ses choix, ni dans ses matchs, ni dans ses styles de jeu, ni dans ses compos. Quand tu fais jouer Granit Xhaka, qui est adepte de grosses fautes arrière gauche et qui se retrouve dans la surface à sa Chukwueze, tu te mets à risque. Et donc
tu comprends pourquoi maintenant je nuance ma réponse, parce que à la base je me dis Villarreal, ils ont tout pour sortir Arsenal, et avec tout ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, finalement ça fait que 2-1.
Ouais, non, exactement.
C'est pour ça que maintenant je pense que
malgré une telle mauvaise performance, ça fait que 2-1. Donc Arsenal est toujours en vie. Arsenal, ça c'est sûr.
Ils s'énervent, des fois c'est
ils s'énervent, ils arrivent à s'énerver.
Le tacle.
Ils arrivent à s'énerver.
Le tacle glissé de Kamel.
Waf.
Jekyll, vas-y.
Il fait peut-être référence à la remontada à West Ham quand ils perdaient 3-0, ils sont revenus à 3-3. Des fois ils ont des petits sauts d'orgueil.
Je pense qu'il fait référence. Je pense qu'il fait référence à Arsenal-Villarreal de 2009, à l'époque d'Adebayor, Fabregas, Robin van Persie, où là, Arsenal était quand il s'énerve. Ils avaient fait 1-1, je crois, à l'aller avec le but incroyable de Senna. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le milieu de terrain espagnol. Et au retour, ils avaient battu 3-0 à l'Emirates.
Les yeux pétillent.
C'était l'époque où je suis tombé à
Mendo
Belotti. C'est ça. L'erreur d'Arsenal, peut-être, contre Villarreal, ça a été peut-être de se concentrer un peu trop sur Moreno, qui est dans une forme assez incroyable. Il fait peut-être la plus belle saison de sa carrière. Il est à 20 buts en Liga, il est à 6 buts en Europa League. Peut-être qu'il a concentré un peu trop d'attention, et c'est justement dans les espaces qu'il a libérés que les solutions elles ont été trouvées. Au retour, ils vont peut-être changer d'avis et là, pour le coup, on reverra peut-être Moreno. Moi, je pense que c'est un match qui n'est pas gagné d'avance et c'est pour ça qu'on est content de voir une Europa League, un dernier carré de ce niveau-là. Ouais. Alors, tu soulignais, on arrive quand même au quart demi-finale avec une Europa League assez attrayante. Comme je te l'ai dit la dernière fois, Bilal, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé que les matchs d'Europa League se jouent avant ceux de Champions League. Mmh. Ça devrait peut-être
être... Ouais, ça changerait. Ouais,
exactement.
Ouais. Vendredi ou remarque, même jeudi.
Non, le mardi, justement. Ouais. Non, le lundi ou le lundi, dimanche ou le lundi.
Non, mais le mardi. Non, mais tu décales, non. Tu décales les journées de Ligue
2. Ah, ouais, d'accord. Ouais, ouais,
tu fais mercredi, jeudi.
Je voulais changer, Mourad.
D'accord. Sinon, ça fait une espèce de descente émotionnelle entre les matchs de Ligue des Champions et les matchs d'Europa League. Si tu les fais jouer avant, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt vers la
compétition. Va savoir.
Moi, ce que j'ai aimé.
Avant de passer à l'invité.
Moi, ce que j'ai aimé dans ces demi-finales d'Europa League, c'est tous les destins croisés qu'on a vus. On a vu avec Manchester United et la Roma, il y avait Smalling, Mkhitaryan, qui étaient des anciens de Manchester et qui ont retrouvé leur club. Pareil avec Villarreal Arsenal, où il y a Robert Pires qui a joué 10 ans dans les deux clubs. On a Unai Emery qui a basculé entre les deux clubs. Il y a eu Coquelin qui a joué hier, qui est formé à Arsenal. Donc voilà, tous ces destins croisés-là font le charme un peu de cette compétition. Et ça, j'ai bien aimé.
Ouais. C'est vrai.
C'est une petite équipe.
C'est ça, voilà. Le football européen. Alors, on va s'attarder à notre invité. Il en a pas mal de coups de cœur. Ça, c'est sûr, Mourad.
Timesport. The Special One.
Pas la Ligue des Champions non plus.
Eh ouais. Non, Jekyll, justement. C'est la Ligue des Champions ce soir. Avec lui, en personne, dans ce studio de Beurre FM. Et pour la première fois dans cette émission, de Timesport, il a assez chaud. Justement, on aimerait s'attarder.
À ne pas confondre avec DJ Kim. Hein.
Non. DJ D'accord. Kim, DJ Kim, il est à table encore, DJ Kim. Non?
Ouais, on lui souhaite bon appétit.
Voilà. En tout cas, voilà, on lui souhaite, comme tu le dis si bien, on va pas s'attarder dans le domaine culture, mais plutôt dans le domaine sportif avec l'US Torcy, c'est bien ça, éducateur.
Oui.
Hein, des U16.
Exactement.
C'est bien ça. Aujourd'hui, les jeunes, les moins jeunes gardent un peu cette frustration, si je peux me permettre, Jekyll, de ne pas jouer, de ne plus reconnaître, on va dire, ces fameux tournois, ces événements que l'on peut se procurer aussi en club et même à travers des entraînements. Comment ça se passe avec vos jeunes et aussi à travers cette région qui est l'Île-de-France?
Bah, c'est pas évident parce que effectivement il y a des protocoles à tenir. Après, c'est vrai que
c'est tout à fait normal.
On va pas se mentir qu'au fur et à mesure, il y a déjà plus de jeux, déjà il y a un peu moins de séances à part pendant les vacances, on a pu en faire deux par semaine. Mais pareil, c'est le truc, c'est surtout de les tenir, on va dire tenir la motivation, quoi. C'est ça, surtout tenir la motivation des petits pour leur dire venez. Bon, au départ, nous, on savait que ça allait être pratiquement saison blanche, mais on espérait quand même. Donc, on leur disait, on ne sait jamais si on doit rejouer dans un mois, dans deux mois, faut être prêt. Voilà. Et donc après, c'est surtout la motivation, tu vois. Après l'école, quand ça reprend,
Je vais pas en abuser, justement. Mmh. Mais est-ce que, on fait appel, vraiment, à une cellule, peut-être, je vais pas appeler une cellule psychologique, quand il y a malheureusement des attentats ou encore des catastrophes naturelles. Mais comment ça se passe? Parce qu'il y a eu pas mal d'histoires relayées aussi sur les réseaux sociaux ces derniers temps où on voyait des jeunes délaisser l'envie, que ça soit pour le football, pour le rugby, pour le tennis, à cause de cette crise sanitaire. Ouais. Comment vous, éducateurs et aussi le club, font face à ça?
Déjà là c'est sûr et certain, déjà le plus important c'est déjà la santé, donc c'est déjà ça la première des choses. Avant tout ça, avant le sport, avant tout ça, il y a déjà la santé, et ensuite derrière ça il faut je suis carrément j'ai un trou.
Alors on va l'aider.
Ça arrive.
Quand
t'as un trou, tu sais ce que tu dis. Je te donne un tip. Tu dis, il faut rebondir. Et là, tu verras que tu ne pourras pas passer à autre chose.
Quand même, peut-être une réaction. Non. Toto Bellozzo. Allez.
Ça me fait drôle parce que d'habitude, j'ai toujours l'impression de. Pas l'impression, mais j'ai l'habitude de l'entendre parler de musique. Aujourd'hui, c'est Jekyll, l'éducateur.
Bien sûr.
Et
on aime ça.
Non, mais je trouve ça super intéressant parce qu'il a. Un vrai regard sur les deux.
Et moi,
j'étais venu avec une question que j'aurais pu te poser après l'émission, mais j'ai envie de te la poser pendant. Toi qui viens du monde de la musique, qui est aujourd'hui dans le monde du foot, c'est vrai qu'il y a quand même des. Dans, dans, le, dans le dialecte du football, on parle de récital, de soliste, de concerto, enfin bref, ouais. Il y a beaucoup de mots qui reviennent comme ça du monde de la musique. Ouais. Est-ce que toi, dans ton regard, tu trouves qu'il y a des similitudes entre le monde de la musique que tu as connu et le monde du football que tu connais aujourd'hui?
Bien entendu.
Le freestyle, par exemple.
Ouais. Tout,
ouais,
même
ouais, c'est ça.
Même ne serait-ce que le management, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que même de parler, c'est comme si tu parlais à un petit à qui tu lui fais un atelier écriture. Tu vois, ou pas. Tu lui expliques, tu sais écrire, ok, mais maintenant on va t'orienter dans. Voilà. Comment tu devrais, sur une thématique, sur un truc, essaye de réfléchir plus avec ta tête, tout ça. Ouais. Il y a beaucoup ça. Et aussi le public aussi. Ouais. Le public, les jeunes qu'on a au foot, c'est les jeunes que t'as dans
c'est
le
rien.
Hein.
C'est très lié.
C'est la même chose. Après, c'est vrai, quand tu leur parles.
C'est lié, c'est le mot.
Après, moi, j'ai aussi le côté aussi.
Oui,
j'ai le côté aussi plus, aussi, daron aussi, tu vois. Je suis papa.
Ouais.
J'ai eu des fils aussi. Enfin, j'ai des fils comme ça en fin de carrière. Donc aussi, j'ai aussi ce côté-là. Il y a beaucoup d'éducateurs, je remarque aussi, à qui je pense que, une fois que t'as des enfants, tu peux pas réfléchir pareil que quand t'en as pas, en fait. Tu sais, pas. Quand tu coaches tes jeunes, bah voilà, il y a l'âge et tout ça, mais tu peux pas, c'est pas, l'angle, il peut plus être pareil. Tu vois, ouais. Je sais pas. Parce que tu parles à des enfants, tu sais, pas. Et t'en as. Voilà, après, il y a tout ça. Non, mais après, ouais, c'est surtout ce management-là et ce côté de public, en fait, de public.
Ouais, parce que ouais. C'est vrai que tu sais, du côté social, dans les quartiers, il y a toujours eu ces deux grandes portes de sortie, issue sociale. C'était pendant longtemps le rap et le foot. Et justement, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as ce double regard
un peu
sur ces deux mondes-là.
Bien sûr.
T'as un regard pour le coup très professionnel dans la musique, et tu l'amènes un petit peu dans le football.
Voilà, c'est exactement ça. Tu sais, moi, je vais te dire un truc, c'est comme quand la musique appartient à son domaine, à son public et tout ça, aux gens qu'il a. Tu sais, moi, pour moi, de la musique, ça représente. Des personnes, tu vois, pas une population, un truc. Quand je vois des clubs autour de nous où c'est les gens de la ville qui ont grandi dans la ville et qui reprennent le club, et ben direct le club il a une identité, il a quelque chose. Tu vois, et là c'est ça que j'ai. C'est comme des labels de musique qui sont
indépendants.
Soit comme des maisons de disques, mais c'est des labels qui produisent des gens de chez eux, qui le terroir et tout ça, tu vois. J'aime bien ce truc-là, et c'est un peu.
C'est intéressant ce qu'il dit. Et je vais vous poser une question. Maintenant, aujourd'hui, les éducateurs, ce qui est bien, c'est qu'il y a un dépassement de fonction. Mm. Ils s'occupent aussi, comme tu dis, en fait, il y a un espèce de rôle de grand frère.
C'est ça,
ils s'occupent aussi de.
Est-ce que
les jeunes, naturellement, de eux-mêmes, ils viennent justement vous demander conseil, et même pas que par rapport au football, même dans la vie de tous les jours, est-ce qu'ils vous font part de leur inquiétude, etc. Ils vous en parlent un peu.
Moi, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une très bonne question. J'ai des. Nous, on a des petits, enfin, l'avantage dans un club comme Torcy, c'est que c'est un des gros clubs de pré-formation, tout ça. C'est-à-dire que
nous,
les clubs pros, ils viennent souvent chez nous.
Ouais,
donc, ça veut dire que quand ils viennent, donc nous, on est confrontés à avoir des petits qui sont à Clairefontaine et qui viennent les week-ends. Donc, on les voit une fois par semaine, il faut leur parler de jeux, de ci. Et eux, des fois, ils te parlent de problèmes à qui ils n'ont pas parlé pendant la semaine, obligatoirement. Et après, tu rentres dans ce délire-là. Moi, j'ai des petits, même des fois, j'écris des textes et tout. Non, bon, tu rappes. Il y a des clubs sur toi là, tu fais tout, j'ai envie de te dire. C'est une question, commence déjà pas le foot.
Jekyll, on en parle souvent, justement.
Et moi, je trouve que justement, le fait, et ça va continuer dans ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que les clubs, quand les gens des gens bienveillants de la même ville, ils reprennent leur club, et ben obligatoirement, il y a un lien social aussi qui passe. Ça, je veux dire ou pas? Parce que les mecs, ils parlent aux petits qui sont chez eux, ouais, vas-y, viens. Sinon, ils sont surveillants dans le collège.
Pertinent, Jekyll.
Ça a bien changé.
Ouais. C'est Samy qui le dit, un auditeur. Oui, Mourad, réaction. Peut-être qu'on aura aussi Kamel.
Moi, j'avais une question pour Jekyll. Étant donné qu'il baigne dans les deux domaines, le foot et la musique, s'il avait un jeune aspirant, c'est-à-dire dans la force de l'âge, 17-18 ans, et qui avait un choix à faire, un peu comme le petit Dinor du 14e, entre le foot et la musique. Tu lui conseillerais quoi?
À lui?
Ouais. Enfin, pas à lui, mais à un jeune qui a le choix entre faire une carrière dans la musique et faire une carrière dans le foot.
Je l'ai vu, je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, alors tu préfères quoi? Je lui ai dit. Mais en plus, il est pas mauvais des pieds.
Je l'ai vu jouer à Torcy d'ailleurs en plus. Quand il était venu avec Sochaux.
Disque d'or, Exactement.
Il n'a pas tort.
En plus, c'est marrant parce que nous, à l'époque où on tournait à toute patate, on passait à la télé, on était bien quand on avait fait le projet Bissot, tout ça et tout.
Et oui, Bissot.
C'est la même époque, France 98, où quand on sort ensemble, on est trucs. C'est comme ça que j'ai lié des liens avec beaucoup de joueurs de cette époque. Là, mais eux, quand je les écoutais, c'était moi la bête. Tu vois, je dors pas.
Ouais.
Non, lourd, t'es fou, j'étais en centre de formation, j'écoutais de balles de nègre, j'écoutais ça. Tout, je me regardais comme ça, je suis là, t'es sérieux, toi? Ouais. T'es là, bon, je partais à Londres, aller les voir là-bas, tout ça et tout. Mais en vérité, je te dis, non, attends, la sécurité, ça dure moins longtemps, peut-être, mais pareil, comme quand tu fais un hit, ça se trouve, il y a des mecs, ils ont fait leur carrière, leur vie, leur fortune sur un morceau. Tu vois, je te dis ou pas?
Bien sûr.
Mais ils sont très rares, tu vois, je te dis ou pas?
Ouais.
Maintenant, un footballeur, tu peux, si tu réussis, on va dire, si tu as le statut pro et que tu arrives à faire une carrière honorable, tu peux le faire sur.
C'est encore un peu plus stable que le monde de la musique.
Mais voilà, en tout cas, t'as de quoi. Moi, je te dirais, commence par le foot.
Le rap,
tant que tu parles.
Conseil, hein. Le football.
Ouais, mais la street tu l'as perdu.
Alors.
J'ai envie de te poser une question parce que justement, tout à l'heure, tu l'as dit. T'as côtoyé quand même à une certaine époque les footballeurs et on sait qu'il y a des accointances entre footballeurs et rappeurs de plus en plus. Enfin, ça a toujours existé à une époque. Encore aujourd'hui, on voit Matuidi Charon avec tu vois les Niska et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que l'état d'esprit des rappeurs, parce qu'on sait que l'état d'esprit du jeu Île-de-France est très imprégné de la street, très dur sur l'homme et ainsi de suite. Est-ce que le rap a imprégné un petit peu le football Île-de-France?
La culture foot, tu veux dire.
Ouais, la culture et la
façon de jouer, exactement.
Oui, l'état d'esprit du jeu, ainsi de suite.
Moi, je te dirais peut-être pas la musique, mais la rue, la street, moi, je te dirais plutôt. Ouais. Je veux dire, quand on dit, t'as vu des fois, nous, pourquoi on kiffait des Zizou, pourquoi on kiffait je te dirais même pas Platini,
des Thierry Henry,
des joueurs comme ça. Parce qu'en fait, ils jouaient comme un gars à nous de notre quartier. Ça génère ou pas?
Ouais.
Tu vois, le jeu de, on va dire, des mecs de la rue, il y avait un style, mais le football français le savait pas. Tu vois,
même vraiment compas, c'est la street.
Ces joueurs-là qui nous ont vibrés, tu vois.
Alors.
Les joueurs qui étaient pas obligatoirement. Alors, soit les gros techniques, ou soit ceux comme les époques même de Cissé, là. Même Cissé, quand il joue au début, voilà, il joue comme.
Comme s'il se faisait courser.
Il accélère et pousse son ballon.
Comme s'il se faisait courser par la police. Non, je plaisante.
Quand même pas. Moral. Vendredi soir, 22h30, pas encore. 23h, on va laisser le temps à Vanessa d'arriver. Je te prends pour qui, là? Quand même, un peu de sérieux, justement, parce qu'on parle beaucoup de football amateur aussi, et on l'oublie parfois.
Moi, j'aimerais te poser une question. Vu que t'es un peu. Tu l'as dit toi-même, t'es un peu le grand frère. Mais est-ce que tu penses que dans les quartiers, dans les cités, les jeunes, ils ont que deux options, c'est-à-dire le foot et le rap. Il n'y a pas l'option école et les grandes études. Et moi, je pense que c'est le problème des parce qu'ils enclavent les jeunes à faire. Soit vous êtes footballeur, soit vous êtes rappeur. Et après le reste, vous allez aller à la NPE, tu vois. Mais il n'y a pas cette notion de dire, voilà, aller à la bibliothèque, faites de grandes études, etc. C'est ça le problème.
Ouais, mais je pense aussi que c'est pour ça que même par ça, justement, par ces voies-là. Il y a aussi, c'est pour ça que je dis à chaque fois, même quand tu reprends un club, je dis oui, des personnes bienveillantes.
Oui.
C'est-à-dire que voilà, une action sociale avec un club, le social, il rentre de plus en plus. Et je pense que moi, comme je suis un peu.
Non, mais le social, mais le culturel, c'est pas le social.
Peut-être ouvrir plus de bibliothèques que de city stades, par exemple. Non, ça peut être une option.
Ça veut dire que tu amènes le social, ça veut dire que.
En fait, moi.
Tu te bases pas que sur une chose. Ça veut dire que même par le foot, tu peux parler d'autres choses, d'écriture, tu peux parler de ci, de ça. Tu vois, je ne comprends pas. Nous, on dit toujours, ouais, s'il y a école. Si t'as cours et si tu finis trop tard à chaque fois, viens pas au foot. Tu vois, je veux dire, à un moment, vas-y, reste, tu vois, tu auras le temps de faire tes devoirs, tu auras le temps de tout ça, tu vois. Maintenant, c'est l'axe que t'amènes. Et moi, je connais beaucoup de clubs, justement, maintenant, qui font ça, ils font aussi l'aide aux devoirs, ils font aussi, tu vois, ils amènent aussi, tu vois, il y a des trucs sur les trucs de parentalité, mais aussi au niveau des enfants, comment tout ce lien social, comme je dis, c'est ça aussi qui peut t'amener aussi à autre chose que penser qu'au rap, penser qu'au foot. Oui. Tu vois, je veux dire, pas, et c'est ça, moi je pense qu'après, c'est un travail aussi, tu vois,
Et la pratique du foot a évolué aussi, Jekyll.
C'est un travail d'équipe aussi.
C'est aussi
un travail d'équipe. Mais bien entendu que, t'as vu à un moment, même nous, quand on parle avec, moi je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, quand on parle avec les mecs, quand je parle avec les jeunes et tout ça, on leur demande, ok, il y a ça, l'écriture. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu vois, c'est je veux être rappeur.
Rappeur ou footballeur?
Non, écoute, c'est ça. Écoute,
on va s'arrêter.
Rappeur, footballeur, c'est des options. Parce que tous les petits qu'on a, c'est des mineurs.
Bah, ça doit commencer par être des hobbies, en fait. C'est dangereux de dire qu'il en fait un métier.
Tu sais que, malheureusement, ça, c'est un truc que je l'ai appris en coaching, mais si j'étais de l'autre côté de la barrière, je l'aurais jamais compris. Il y a des petits à qui tu peux dire, mais ça va être long pour toi. Tu vois, tu penses à signer. Il y a des petits, ils sont. Je vais pas dire KO, mais ils sont pas très bons.
Ouais.
Ils jouent dans le club, mais c'est difficile de leur dire, c'est pas tout de suite pour toi.
Kamel, pour
choisir les mots. Oui, Samir. Avant la pause, Samir.
Pour répondre à ce que tu
dis,
tu me diras si je me trompe. Torcy, ça a toujours été un club très proche des centres de formation de football. Aujourd'hui, les recruteurs, quand ils recrutent des jeunes, des clubs comme Torcy, Bretigny, Red Star, etc., ils demandent à ce que le jeune joueur, ils demandent ses bulletins scolaires, en fait, aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans les centres de formation, pour rentrer en centre de formation, il faut que tu aies des bonnes notes. Bonne note plus comportement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des classements de centres de formation. Et dans les grilles de notation des centres de formation, tu as le niveau scolaire qui est pris en compte. C'est-à-dire, tu as l'aspect sportif, mais tu as combien de pourcentage de réussite dans les études ? Et aujourd'hui, les recruteurs, quand ils vont recruter dans ce style de club comme Torcy ou autre, ils demandent ça. Donc, ça rejoint justement ta question. Finalement, je pense qu'il tu me diras si je me trompe, mais est-ce qu'il vraiment vous avez un regard sur les résultats scolaires de
ils poussent pas au maximum quoi, ils disent que les jeunes
je pense que l'exception c'est sur la pépite.
Je suis d'accord, sur le reste ils le font maintenant. Ouais, peut-être
comme s'il y avait que deux issues dans les cités, le foot.
Non, c'est pas ce qu'il a voulu dire, Toto, il a pas dit ça. Je vais te dire ce que j'ai dit.
Mais tu me fais peur là, tu me fais penser à Dimitri Payet.
Je suis en train de dire que
c'est ce qu'on leur inculque.
Non, c'est deux portes de sortie qui sont les plus visibles par les jeunes parce que c'est celles qui sont les plus exposées et celles qui apportent d'un point de vue le plus de choses. Les portes de sortie existent, simplement il faut leur montrer, comme l'a souligné Jekyll, quand un club de foot insiste sur l'aspect éducatif, sur l'aspect scolaire et ainsi de suite, ça leur montre qu'il y a d'autres portes. C'est ça que je trouve intéressant, mais dire qu'il y a simplement ces deux issues.
Moi je te dis que c'est vrai. Il y a que ces deux issues.
Tu
fais un sondage, tu vas dans un club ou tu vas dans une cité, tu demandes à tous les jeunes.
Il n'y en a aucun qui va te dire je vais être médecin,
je vais être chirurgien, je vais être avocat, je vais être ingénieur. Ils ont un rappeur. Mais c'est le regard qui est plus important. Parce que eux, c'est eux qui vont faire les études, c'est pas les autres. Mais c'est parce qu'on les a focalisés sur ces deux trucs. Ça veut dire vous allez faire que rappeur et que.
C'est des success stories en fait. Ils s'identifient par rapport à ces stars.
En règle générale, c'est que ça.
J'ai qu'il avant la pause, la dernière.
Moi, après, maintenant, ce qu'il y a, c'est que effectivement, aussi le rap. Moi, si je dois faire le parallèle aussi, c'est
alors
que aussi à l'époque, à notre époque.
C'est la meilleure époque.
C'était on dit ça parce que
il y avait moins de rappeurs à votre époque.
Il y avait pas moins de rappeurs. Je pense qu'il y avait déjà c'était plus difficile.
De se faire
écouter. Déjà, il y avait pas le net, il y avait pas tout ça. Et en fait, c'était l'écriture et le son qui faisait l'artiste entre guillemets. Aujourd'hui, où le rap justement financièrement te rapporte le plus, c'est le moment où le rap est le plus festif, le plus chanté, le plus mignon entre.
C'est les onomatopées qui font le succès aujourd'hui, j'ai l'impression.
Et voilà, même le mot, mais voilà, c'est aussi l'évolution du foot. Ce que gagne Mbappé, c'est pas ce que gagnait Platini ou ce que gagnait même Ronaldo, le premier. Au niveau des thunes, il y a des petits, c'est le foot business
qui a évolué. Là, on est plus dans le foot business aujourd'hui.
C'est les choses aussi qui te montrent que. Voilà, oui.
C'est le rap game,
c'est à peu près la même chose. Là, il y a des petits, ils peuvent être sur le terrain, comme on dirait, des guetteurs. Ils font un rap qui passe. Hop, ils font des millions de vues sur YouTube. Ils signent, boum, ils prennent directement un billet qui peut leur faire arrêter de faire leurs bêtises.
En tout cas, on ne fait pas de bêtises et on est bien heureux de vous avoir avec nous, Jekyll. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On va parler rapidement de F1 et on s'attardera sur le Paris Saint-Germain, Jekyll.
Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Jekyll, notre invité ce soir. Et oui, éducateur du côté des U16 de l'Est Torcy, mais sans oublier Kamel, présidenté avec Samir, le coach Tolet, à qui nous passons le bonsoir, il n'est pas avec nous ce soir. Mauricio est avec nous, il nous a rejoint, que vous pouvez retrouver tout à l'heure avec Vivien, avec Vanessa, jusqu'à 1h du matin. Mourad est là, et sans oublier Toto Bellozzo. Alors, on va s'attarder sur la Formule 1.
Time Sport, la troisième mi-temps.
Eh oui, Jekyll, c'est une course faisant office de séance de qualification. C'est la nouvelle norme, la nouvelle réglementation du championnat de Formule 1. Eh oui, l'épreuve est assez inédite. Jugée sur 100 km, bientôt introduite
par les instances de la FIA de manière épisodique. Je m'explique. En tout cas, pour la saison à venir, trois manches seront concernées en 2021 par l'arrivée de cette course sprint dont le baptême de feu doit a priori se tenir du côté de nos voisins britanniques à Silverstone, au Grand Prix. Et c'est vrai que ça fait déjà jaser parce que voilà, on oublie les fameux pole position et aussi tout ce qui n'en découle, et on va s'attarder sur cette fameuse course et avec nombre de qualifications comme on en avait auparavant, eh ben là ça n'existera plus. C'est lui qui remportera, en quelque sorte on fera un classement et après on mettra la grille finale pour le lendemain dimanche. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi, Kamel? C'est assez fou quand même là aussi.
Oui, je sais pas.
Parce que là, nombre des écuries aussi dans les paddocks, ça commence à un peu crier.
Ils feront toujours la course en fait. Toujours la course.
Ouais, il y a une première course. Ça sera si vous voulez, elle sera 200 km. Et sur cela, on jugera en fait. Ouais.
Ouais, ça veut dire qu'ils vont faire.
C'est un circuit toujours.
Ouais, ouais.
Mais sur le circuit.
Ils vont faire le mini Dakar quoi. Non, mais je veux dire, c'est favoriser les voitures qui vont les plus rapides. C'est-à-dire, il y aura plus de grilles, par exemple, des voitures comme Matra, etc. Je dis ça, mais Renault, etc. qui vont être premiers de la grille. Là, ça va être que les Mercedes.
Une séance de qualification.
Ouais, une séance de qualification sur 100 km, ça veut dire la voiture la plus rapide elle va gagner, donc automatiquement ça va être les deux Mercedes, à moins qu'il y en ait
Le principe de la Formule 1.
Oui, non, mais
la plus rapide qui gagne.
Non.
Toto Bellozzo, arrête un peu.
Non,
il y a la technicité aussi de la voiture.
Non.
On t'a compris quand même.
Non, c'est pas.
Il est taquin ce soir.
Moi, ce que j'ai compris.
Alors,
je peux terminer.
Alors,
bien sûr.
Alors, attends.
Ah, mais je voulais appuyer ton point justement. Mais je peux te laisser en reste si tu veux. Il y a pas de souci.
Vas-y.
Alors, ils étaient énervés, c'est incroyable.
Là, ils sont chauds là. Je crois que c'est le PSG ça.
Non, mais je veux dire, voilà, c'est pour répondre à Toto. Non, il y a aussi un peu le conducteur, tu vois. Il y a un petit peu le conducteur qui est là. Donc non, mais je veux dire que c'est n'importe quoi. Donc après, bon, bien sûr, les paddocks ils vont se révolter. Mais je pense que voilà, c'est comme dans toutes les fédérations sportives, etc. C'est des gens qui ont ce poids dans les règlements, qui n'ont jamais pratiqué la course, etc. Et qui se lèvent un matin et disent voilà, on va faire une course de 100 km. Pourquoi? On sait pas, le mec il s'est levé, il s'est dit ça. Voilà. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il y a un moment donné, il faut rendre le sport aux sportifs par rapport à toutes ces règles qui détruisent le sport de toute catégorie, hein, que ce soit le football, le handball, la Formule 1, etc. Même la boxe, ils ont fait des trucs. Donc voilà. Donc, mais je pense que ça va pas durer. Je crois qu'il va y avoir
ils vont le faire sur trois grands prix. Hein.
Tu vois, c'est la question que je t'ai posée, c'est pourquoi est-ce qu'il y avait une problématique vis-à-vis des qualifications?
Ils veulent redonner de la matière à.
C'est comme à l'époque l'histoire des fameux cartons aussi dans le football. Le carton vert, le carton bleu, le carton blanc. D'accord. On se souvient de cela.
Si je peux me placer une, le schéma économique dans la Formule 1 est assez similaire à celui du football.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des fédérations ou bien des écuries qui sont détenues par des fonds d'investissement. Et on a constaté sur les dernières années, justement, que l'affluence avait beaucoup baissé au niveau de la Formule 1. Et j'imagine que cette réforme, c'est pour relancer un peu le spectacle.
Oh,
et donc ouvrir un peu la Formule 1.
Peut-être
à des
de courses,
à d'autres
moi,
couches.
Oui, non, mais première course le samedi de 30 minutes et après le Grand Prix le lendemain.
Non mais c'est ça. Ben on est dans la. Non, c'est le même problème que les clubs. C'est le même problème des calendriers au niveau de l'UEFA. Ouais. Donc plus de matchs, donc plus de spectacles.
Est-ce que parce que tu vois, tu soulèves quelque chose de super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de retrouver les mêmes problématiques comme football, comme tu l'as dit, les fonds d'investissement. Et j'ai l'impression que ce mal. Des investisseurs du football qui cherchent
dans le sport quoi,
au détriment
en règle générale,
enfin voilà, le fonds d'investissement fait vraiment tâche dans le milieu du sport.
Pour moi, le fonds d'investissement dans la Formule 1 par exemple, pour moi ça me choque pas, parce que le fonds d'investissement, c'est enfin la Formule 1, c'est accessible à une certaine élite, c'est pas un sport aussi populaire que le football. Mais pour moi, le fonds d'investissement, c'est pas un souci.
Ils recherchent que le rendement.
Oui, c'est le but d'un fonds d'investissement. Quand tu fais rentrer un fonds d'investissement par exemple à Bordeaux, quand tu le fais signer, quand il arrive, c'est juste pour des questions de rentabilité. Il faut pas se surprendre qu'au bout de 5 ans, il quitte le navire parce que le business n'a pas été rentable ou parce qu'il juge que le plafond de rentabilité, il a été atteint. C'est le principe d'un fonds d'investissement. Donc pour moi, il n'y a pas de quoi s'alarmer.
Ah justement, s'alarmer peut-être avec cette info. Angers, le Paris FC interdit de recrutement par la FIFA. Là aussi.
des choses à dire. Peut-être avec Samir, Kamel ou encore Toto Bellozzo et Jekyll.
Ouais,
ouais. Ah ben justement, on rappelle.
A priori.
La commission de discipline de la FIFA a sanctionné Angers et le Paris FC en Ligue 2 pour un transfert relais, celui de Kevin Bemanga. Les deux clubs ne pourront pas donc recruter durant le mercato estival.
C'est ça, c'est qu'a priori, ils ont essayé de contourner le règlement. Tu sais qu'il y a plein de transferts qui se font et quand un transfert se fait, tu dois donner des indemnités en fait de formation. Et il y a des clubs qui te font signer, ne te font pas jouer dans le club pour qui tu signes et te prêtent tout de suite.
Ouais. Ils appellent ça les transferts relais. Ouais. Voilà. Là, c'était le 400 mètres pour le cas de...
Quand je t'ai recruté, je n'étais pas recruté pour te faire jouer, j'ai été recruté juste pour esquiver en fait une indemnité à ne plus donner. Et la FIFA, ils sont là pour contrôler ça, ils ont été sanctionnés.
Moi, ce qui me surprend, c'est que c'est la problématique justement d'esquiver le paiement des indemnités de formation et de mettre en place des transferts relais. C'est que c'est la pratique de la plupart des grands clubs, Chelsea, le Real Madrid, etc., ont été condamnés.
Ouais.
Donc j'ai l'impression que la FIFA est fort avec les faibles et faible avec les forts. Le Real Madrid, ils ont été condamnés à ne pas recruter pendant la trêve hivernale. Angers, le SCO d'Angers, le Paris FC a été condamné à ne pas recruter pendant la trêve estivale. Les conséquences de ne pas recruter pour le SCO d'Angers en été, sachant que potentiellement en 2022 on arrive sur une Ligue 1-18, qu'il faudra préparer l'après-moulin, justement, donc ne pas recruter, ça peut les mettre tout de suite dans la mouise et éventuellement les envoyer tout droit en Ligue 2. Donc je trouve que c'est un peu trop fort de la part de la FIFA d'avoir de les avoir condamnés. Après, il y a le principe d'innocence aussi, puisque là j'ai l'impression qu'ils doivent prouver qu'ils ne sont pas coupables.
Ouais.
Donc ça, c'est la loi française. Mais au niveau de la FIFA, ils doivent prouver justement qu'ils sont innocents. Donc il y a un petit delta. Ouais, mais c'est pas la même chose.
Mais le problème des indemnités de formation, c'est-à-dire que la FIFA, elle a fait une clause que tous les clubs qui sont formés, qui forment, ils touchent une indemnité, un pourcentage de 5% ou 3% sur le transfert. C'est-à-dire si le joueur il signe un contrat comme par exemple Mbappé, Bondy va toucher un maximum d'argent. Et c'est logique.
Ouais, mais à l'étranger.
À l'étranger.
Pas entre clubs français.
Donc avant c'était entre clubs français. Mais les clubs français ils sont mis d'accord entre eux pour faire sauter cette indemnité de formation. Donc ça veut dire ils mettent à mal la formation française. Ça veut dire tous les petits clubs qui forment les jeunes, etc. Ils ont besoin de cette indemnité de formation pour recruter d'autres joueurs. Et donc ça veut dire que ils ont décidé de pas la donner à ces clubs formateurs, alors que ils retirent les avantages de ces clubs formateurs, parce que ceux qui donc je pense que la FIFA après contre Manchester City, Real Madrid,
on va parler de Manchester City et du Paris Saint-Germain.
Ils ont raison d'attaquer sur ça parce que ils attaquent une de leurs lois qui est justement donner de la une indemnité de formation.
Merci Kamel. La dernière rubrique de cette émission.
Time Sport. Les prolongations.
Allez, Jekyll est avec nous. L'attaquant parisien, la pépite, le gamin de Bondy, Kylian Mbappé, sera préservé donc pour la réception de Lens ce samedi après-midi.
Pourquoi pas?
Ouais, pourquoi pas? On l'espère réveillé pour le match retour du côté de Manchester.
Lens, c'est un gros morceau par contre.
Ça va pas rigoler alors face à Lens.
Lens, je pense que ça va.
Pep Guardiola les attend de pied ferme, hein, aussi, Jekyll. Que s'est-il passé? Seconde période de le Paris Saint-Germain.
Le match de Ligue des Champions, là.
Ouais.
La seconde période, c'est Guardiola qui a gagné. Hein.
À ce niveau-là.
Il a réussi à renverser la vapeur. Mais par contre, les buts, quand même, t'as vu, on peut en parler des buts, hein, tu vois.
Un but, c'est un but.
La passe de Bruyne et tout, tu vois, Schneider, bien frappé et tout, mais voilà.
Dans la défense pas à sa place.
Le coup franc de Mahrez.
Mahrez qui tire dans le mur et...
Juste pour la petite info, il y a des Paredes dans le mur et j'ai appris il n'y a pas trop longtemps que Paredes voulait dire mur en espagnol. Donc c'est un peu le comble pour un joueur comme lui.
Mais ça te fait trouver.
Il a fait.
Non, c'est Kimpembe, t'as raison.
Kimpembe.
Moi, pour moi, c'est Kimpembe. C'est lui qui fait le trou dans le mur.
Non, non.
Il se retourne. Il n'a
pas le droit.
Il dit que Paredes, ça veut dire mur en espagnol. Kimpembe, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il n'a pas
son rôle. Mais c'est vrai qu'en tout cas, écoute, là, cette année, PSG a montré qu'à l'extérieur, ils n'avaient pas peur.
Ah ouais.
qu'ils savaient mettre des buts. Après, voilà, ça va. Là, il y a 2-1. Donc, voilà, t'as vu.
2-1.
Tu fais 1-0 et tu fermes. Normalement, t'es qualifié, je crois.
Ouais.
Tu parles pour qui? Pour City? Tu parles pour City ou pour le Paris Saint-Germain?
Pour le Paris Saint-Germain.
Pour le Paris Saint-Germain, les derniers, ils sont éliminés.
Français, c'est ça.
Ils sont obligés de marquer deux buts PSG.
Ouais, tous les cas.
Deux buts. Donc, deux buts.
C'est sûr.
Il n'y a aucun score. C'était
à l'époque de la Coupe des Champions.
À l'époque, 1-0, ça suffisait. Ouais, vas-y, on revient avec toi.
Donc, tu mets 2-0, c'est faisable, je pense.
Pourquoi pas, Jekyll?
C'est faisable.
Oui, Toto Bellozzo.
Oui, on y croit.
Il faut.
Mais pour revenir sur Kylian Mbappé, tu parles de son absence contre Lens. Je pense que avant de penser à son absence contre Lens, il aurait déjà fallu le faire sortir pendant le match.
Mais comment tu veux faire sortir Kylian Mbappé et Neymar, les deux stars de cette équipe qui est le Paris Saint-Germain? Oui, mais toi tu t'en fous. Mais lui il s'en fout pas, Mauricio Pochettino. Mais vrai, franchement, toi aussi.
Pas star, je m'en fous.
Ah ben oui.
Moi je te parle. C'est marrant que
tout d'un coup, il y a ton accent marseillais qui est arrivé d'un coup.
Alors,
mais en tout cas,
sort de ce corps.
Déjà, premièrement, Kylian Mbappé était légèrement blessé en fin de match. Donc déjà, si tu veux le préserver, ça commence par là. C'est plutôt que de prendre des risques et à continuer de le faire jouer.
Tirer sur la corde.
Tu le fais sortir et tu gardes Di Maria sur le terrain pour commencer. Et deuxièmement, quand un joueur, j'ai une grille de lecture qui est simple. C'est ton rendement sur le terrain. T'es bon. Tu restes, si t'es pas bon, peu importe comment tu t'appelles, on fait pas jouer des noms, on fait jouer des joueurs. À ce moment-là, tu gardes.
Tu recrutes des noms, tu recrutes pas des joueurs.
Avant de recruter des noms, tu recrutes des prestations. Tu recrutes pour avoir des prestations.
À un moment donné, c'est le joueur qui fait le nom. Parce que je veux dire, Mbappé, si ça avait été un branquignol, on s'en foutrait du nom Mbappé. Donc, c'est pas un nom que tu gardes.
Le mec n'a pas de
rendement.
Ils sont à 100%.
Oui, mais tu dis Maria qui est en pleine bourre et qui est capable de t'apporter. Pourquoi t'en passer? Et derrière, la preuve, aujourd'hui, Mbappé est incertain. On ne sait pas exactement s'il va être là contre Lens et s'il va être là peut-être la semaine d'après. On n'en sait rien.
Mais donc, pas tu prends des risques
pour rien. Donc, pour moi, il aurait déjà commencé par ne pas jouer la fin du match contre Manchester City.
Je pense, oui, de toute façon, toi,
tu sais que c'est impossible.
T'as ta grille de lecture, c'est bien les trucs. Mais moi, je pense que faire sortir Mbappé et Neymar en demi-finale de la Ligue des Champions.
Juste Mbappé.
Mais Mbappé ou Neymar, parce que les deux, ils étaient. C'est vrai que Di Maria était au-dessus des deux. C'est largement. C'était vraiment. Mais moi, je pense que c'est compliqué. Quel que soit l'entraîneur, c'est compliqué parce que ils sont en pleine renégociation de leur contrat. Les faire sortir en demi-finale de Ligue des Champions, ça va être un atout supplémentaire dans les négociations pour Kylian Mbappé. Donc je pense qu'il les a laissés.
Ils ont prolongé leur contrat.
Je pense que ce qui a traversé.
Samir, pour terminer.
Ce qui a traversé l'esprit de Pochettino, c'est que déjà en deuxième mi-temps, tu te dis que le Paris Saint-Germain s'est fait manger. Ils n'avaient pas le ballon, ils n'avaient pas la possession. Si en plus t'enlèves un des deux seuls joueurs qui arrive à faire des exploits individuels, à garder le ballon, tu fais rentrer qui? Tu fais rentrer Icardi?
Avec Di Maria,
on est d'accord. Voilà. Mais pour rejoindre ce que dit Bilal et Kamel. Pour rejoindre ce qu'ils disent, Neymar et Mbappé, ils n'avaient pas le ballon, l'équipe du Paris Saint-Germain n'avait pas le ballon, c'est les deux seuls joueurs qui étaient capables individuellement le garder pour faire quelque chose.
Alors, une phrase.
Donc, si tu les enlèves, tu l'as plus du tout le ballon. Déjà que tu ne l'avais pas, tu l'as encore moins.
Mourad, rapidement, avant de terminer avec notre invité. Rapide.
Moi, j'ai l'impression que les supporters parisiens, ils sont devenus amnésiques sur la durée. Donc, avant les belles prestations de Kylian Mbappé face au Barça et face au Bayern, ce qui avait été demandé au nouvel entraîneur ou éventuellement à l'entraîneur en place à l'époque, Thomas Tuchel, c'était de traiter Kylian Mbappé comme n'importe quel joueur. Donc maintenant qu'éventuellement, comme Toto le dit, qu'on demande à Pochettino de traiter Mbappé comme n'importe quel joueur qui se tient la jambe à la 75e minute qu'on le sorte, ben là tout de suite on dit non, mais on ne traite pas Mbappé comme les autres, etc. Donc la gestion
Merci
est déjà
moral.
Pas mal. Moi je suis pour justement la méritocratie. Encore une fois, on me le rappelle souvent ici, que j'utilise à tort et à travers souvent, mais je pense que c'est important quand tu veux aller loin en termes de parcours.
Merci, Jekyll. Un grand merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Un pronostic, Jekyll. Match retour. Allez, le pronostic.
2-0 pour Paris.
2-0 pour Paris, un grand merci, un grand monsieur. Jekyll, on le rappelle, éducateur et aussi artiste. Du côté de l'US Torcy avec les U16. Un grand merci à Samir, à Kamel aussi, à Mourad et Toto Bellozzo. Sans oublier aussi dans ce studio, Diane qui nous a rendu visite. Vous restez à l'écoute de Beurre FM. Vanessa arrive à grands pas. 23h, 1h. Voilà, c'est parti. Et nous, on se dit à lundi. Bye bye.
Bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 22h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.